César Diaz.
Bonjour.
Alors, on est avec vous pour votre film Nuestras Madres, mm-hmm. qui est en compétition première de fiction.
C'est ça.
C'est votre, donc, votre premier long métrage. Auparavant, vous avez fait, je crois,
deux documentaires.
Deux documentaires
courts. Ouais.
D'accord. Qui étaient des documentaires.
Oui.
Voilà. Parce que là, c'est vraiment. C'est la fiction.
C'est la première fiction,
ouais. C'est la première fiction. Donc, Nuestras Madres.
Oui.
Je ne sais pas si j'ai dit.
Très bien. Vous l'avez dit très bien,
ouais. En tout cas c'est une histoire forte parce que je trouve qu'il y a une partie là dans la sélection de certains films, notamment certains films tunisiens, marocains, où on est en permanence dans la frontière entre l'histoire et l'intime.
Mm-hmm.
Et votre film, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on a l'histoire,
mm-hmm.
ça se passe au Guatemala,
mm-hmm.
c'est aujourd'hui,
oui.
Et cette histoire, ce sont la guerre qui a eu 30 ans avant, et à travers cette tragédie, y a des personnages d'aujourd'hui,
mm-hmm.
qui chacune vont vivre à leur manière, dans leur intimité, cette histoire. Et c'est Ernesto, c'est ça,
mm-hmm.
Il est enquêteur.
Il est anthropologue, oui.
Il est anthropologue,
mm-hmm.
au centre médico-légal, qui, dans le travail, est justement de rechercher, de déterrer les morts,
mm-hmm.
Qui ont été enterrés dans des conditions, voilà, et qui... redonner de la mémoire à ces morts.
De la dignité, ouais.
De la dignité.
Leur redonner une vie quelque part, et leur redonner un nom, une famille, et surtout permettre. Je pense que ce qui est intéressant, c'est comment la science permet d'entamer un processus de deuil pour les gens. Je pense que pour moi, ça, c'est. C'est très important. C'est très important de comme parce que quand quelqu'un disparaît, il ne reste que l'espoir. L'espoir qu'un jour, cette personne-là, elle va revenir. Mais même si au fond, on sait très bien que c'est pas vrai, que ça serait impossible, mais cet espoir-là, il existe. Alors quand c'est la science qui arrive et vous dit non, cette personne-là, elle est morte. Voilà. Ce qui reste, voilà, vous pouvez l'enterrer. À partir de maintenant, vous pouvez, on peut commencer un processus de deuil.
Voilà. Oui, il y a un film qui n'a strictement rien à voir, mais je me souviens, c'est une phrase qui m'avait énormément frappé dans Gloria de Cassavetes.
Mm-hmm.
C'est à la fin, au milieu du film, Gina Roland emmène le petit garçon au cimetière. Et elle amène devant la tombe où on enterrait son... Où il n'y a personne, en fait. C'est même pas la tombe où on enterrait son père. Il lui dit, il faut savoir dire au revoir. Il faut savoir enterrer les morts.
Oui.
Et ça m'a frappé en regardant votre film. Il y a aussi ce premier plan, je trouve, qui contient d'une certaine manière aussi le film.
Oui.
Où on voit Ernesto méticuleusement, il est en train de restituer justement,
ouais.
Redonner la visibilité à un corps enterré. C'est la guerre effectivement qui s'est passée dans la guerre civile dans les années 80 entre le... C'était quoi exactement? Parce que finalement cette histoire, je ne sais pas trop.
Je pense que c'est alors entre 44 et 54. Il y a eu ce qu'on appelle les printemps révolutionnaires, c'est-à-dire un gouvernement qui a fait une réforme agraire, qui a voulu récupérer les chemins de fer, l'électricité et la production des bananes qui étaient en main de la United Fruit Company, qui est une compagnie américaine. Et les patrons de cette compagnie étaient les frères... les patrons de la CIA à l'époque. Donc quand le gouvernement a voulu récupérer tout ça, il n'a dit pas question. Et donc en 54, ils ont envoyé des avions et ils ont mis en place une dictature militaire. Face à ça, la population, une partie de la population a décidé de défendre le pays. Et donc, ils ont créé une guérilla et, qui avait une idéologie marxiste, qui avait une idéologie guévariste. C'est-à-dire les courants qui a amené à Fidel à Cuba et Ortega au Nicaragua. Et cette guerre-là a duré jusqu'en 96. Donc c'est...
Jusqu'en 96.
Oui, jusqu'en 96.
Ah oui. D'accord.
Mais la partie la plus dure, on va dire, la partie qu'on appelle les génocides, se passe entre 1980 et 1983, qui est la période la plus, on va dire, la plus violente, où il y a le plus grand nombre de morts. Et donc, dans cette guerre-là, on dit qu'il y a 200 000 morts et 45 000 disparus, avec 500 000 déplacés. Quand on remet ça à un contexte d'un pays entre 4 et 5 millions d'habitants, on peut imaginer ce que ça veut dire. Enfin, parce que il faut remettre dans le contexte aussi.
Ce que ça dit, c'est que des familles ont été atteintes, donc tous, la plupart, cherchent à retrouver justement les disparus.
Oui.
C'est le travail de Ernesto. Et puis lors d'un interrogatoire avec une vieille dame, là, cette histoire-là va rejoindre sa propre histoire.
Oui, parce que lui, il cherche son père, qui est un disparu de la guerre civile. Et puis, à ce moment-là, il voit quelque chose, pour ne pas dévoiler trop du film, et il se dit « Mon père est là ». Et il se lance, peut-être la première, pour essayer de retrouver les corps de son père. Non ? Et c'est là où les moments où l'individuel, les professionnels nous dépassent, et il devient un peu... Enfin, il va au-delà des règles...
L'outrepasse,
oui.
Et il y a cette grande histoire, donc cette tragédie, il y a l'histoire intime de chacune de ces mères, de ces femmes. Il y a Ernesto, sa propre histoire, avec sa propre mère, on ne va pas révéler, parce que je trouve que le film est très subtil et très délicat dans sa manière, justement, à chaque fois, de nous donner des éléments de l'histoire à travers, justement, chaque trajectoire. Et c'était un choix voulu, justement, dans la violence de cette histoire, d'être en même temps dans quelque chose d'assez épique et presque délicat dans la manière dont chaque personnage éprouve cette tragédie.
C'était un choix, et c'était un choix depuis l'écriture. Parce que je pense qu'on ne peut pas traiter un sujet aussi dur, et on ne peut pas être face aux horreurs comme ça, et en plus rajouter une forme trop violente. Et parce que je pense aussi que ça avait un lien avec moi et avec les gens que j'aime m'entourer. C'est-à-dire, il y avait une équipe qui était féminine dans la plupart. Enfin, c'est des productrices, c'est une chef opératrice, c'est une chef d'écho. Et donc, les gens sur les plateaux, on avait une certaine sensibilité pour ne pas justement... D'un côté, ne pas rentrer dans les pathos de l'histoire d'Ernesto et son père, etc. Et de l'autre côté, pouvoir avoir quelque chose dans lequel les spectateurs puissent aussi trouver une place. Parce que sinon, moi, ce qui m'arrive, en tout cas dans les films que j'aime regarder, c'est j'aime avoir une place dans laquelle je ne suis pas obligé de... On ne me dit pas ce que je dois ressentir, on ne me dit pas ce que je dois penser. Et je trouve que les films qui traitent ces sujets avec une grande violence t'obligent à être presque contre le mur et à recevoir des coups. Et donc, qui est une expérience cinématographique, évidemment, mais je n'avais pas du tout envie de ça. J'avais vraiment pas envie de ça. J'avais envie que les spectateurs aient une place dans laquelle ils puissent avoir un dialogue avec les films, et un dialogue qui ne passe pas par la violence, qui passe par autre chose.
Et en même temps, c'est le regard que vous avez en tant que cinéaste, il est très terrifiant. C'est très terrifiant parce que il y a cette souffrance que chacun vit, qui contamine le film, qui contamine l'histoire. Et en même temps, il y a le patron ou le collègue d'Ernesto qui a cette phrase. Et j'ai trouvé que ça, c'est une réflexion philosophique du film qui est très forte. C'est quand il dit que la souffrance n'est pas une
synonyme de vérité.
Et là, tout d'un coup, on atteint aussi le cœur du film.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a la vérité à établir et il y a la souffrance à digérer.
Pour moi, il y a deux axes dans le film. Il y a la souffrance n'est jamais un synonyme de vérité. Et il y a les morts, ils sont morts, même si on ne sait pas où ils sont. Et donc, parce que je pense que je voulais faire un film aussi très terre à terre, c'est-à-dire je voulais pas un conte de fées dans lequel on vous dit des moments où vous trouvez quelqu'un, tout est réglé. Et la douleur, elle disparaît, la souffrance, elle disparaît. C'est pas vrai. C'est juste un processus dans ces longs processus de deuil. C'est juste une étape dans ces processus de deuil. D'un côté et de l'autre, moi je voulais avoir des êtres humains complexes. Et je pense que quand on met une étiquette sur quelqu'un, on dit voilà, victime, c'est fini. Et cette personne, elle ne peut pas être autre chose, elle ne peut pas être complexe, elle ne peut pas avoir des contradictions, elle ne peut pas vouloir de l'argent pour ça, elle ne peut pas mentir, elle est juste victime. Or, je pense qu'on est face à des êtres humains. Et donc, ces êtres humains qui peuvent avoir un éventail des gris. Et c'est dans cet éventail des gris que ça devient intéressant. Sinon, on est tous bons, méchants, victimes, bourreaux. Donc voilà. C'est justement là, quand on dit la souffrance n'est jamais un synonyme des vérités, c'est dire les choses sont plus complexes. Les gens sont plus complexes que juste des simples victimes. Et j'avais très très envie de ça. Parce que sinon, j'aurais fait un film binaire. J'avais pas du tout envie.
Comment on réconcilie un pays, une communauté, une population, quand justement l'histoire est éradiquée, est niée? Comment on peut réconcilier?
On commence par parler. Et c'est ça le problème, je pense, guatémaltèque. Je veux dire, les drames guatémaltèques, c'est cette absence de dialogue. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on est obligé de se mettre autour d'une table. Et on parlait de comment on gère les morts, comment on fait le deuil, comment on construit, comment on reconstruit des tissus sociaux, comment... Et les grands, enfin pour moi, les drames guatémaltèques, c'est justement que ça n'existait pas, ces dialogues, au-delà de l'histoire. Aussi ces dialogues existent, il n'est pas sur une base historique. On ne peut pas nier l'histoire. Et il y a un énorme mouvement négationniste, un peu comme partout, un peu comme en Europe, un peu comme dans lesquels on dit ça n'existait pas, ces morts ne sont pas morts, ces morts sont morts, mais c'était plus compliqué, c'était la guérilla déguisée. Et là, on dit non. Enfin, ça, c'est pas possible non plus. C'est-à-dire, on t'a mis un dialogue avec quelqu'un qui n'accepte pas l'histoire ou qui veut réécrire l'histoire, c'est pas possible non plus. Et j'espère que les films remettent sur la table ces sujets-là et remettent sur la table des choses essentielles. C'est-à-dire, ce que vous dites, comment on reconstruit un pays, comment on se réconcilie, comment on se pardonne finalement, non ? Et j'aimerais bien. Et en même temps, j'ai eu assez lucide. C'est-à-dire, je pense pas que ça va arriver. C'est une étape dans ce long processus, justement. Et je pense que c'est intéressant de comparer les deux processus, les processus individuels des individus et les processus collectifs. Et ce dialogue-là aussi, comment ça se lit et comment ça marche ensemble. Parce que je pense que l'étape dans ce long processus qui est l'histoire, on est juste un chez nous.
Et le film, il était à la Semaine de la Critique. Vous avez remporté un prix, c'est ça ?
La Caméra d'Or.
La Caméra d'Or, bravo.
Et les Rails d'Or, ouais. Et les prix des auteurs.
D'accord. Et il a été montré, vous l'avez montré au Guatemala ?
Non, pas encore. On l'a montré juste à l'équipe et on l'a montré à la fondation où on a tourné. Il sort les 18 mars au Guatemala et le 13 novembre en Belgique.
Le 13 novembre en Belgique, très bien. Merci beaucoup.
Merci à vous.